La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous, bienvenue ici dans ce lieu ce matin, bienvenue les enfants pour cette journée d'éducation biblique. Nous sommes tous ensemble à l'oratoire du Louvre pour louer Dieu ensemble. Et je dirais aussi bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet, et particulièrement ce matin à toutes ceux, toutes celles qui sont en Italie et qui sont en communion avec nous et avec la famille qui a présenté ce matin au baptême leur petit garçon. Donc, bienvenue aux amis de Bergame. Nous retrouverons ce matin ensemble dans cette assemblée des personnes qui vont nous aider à prier, à méditer, et particulièrement avec la musique et le chant. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Samuel Zatouni Roufi, qui était avec nous hier au concert spirituel qui a eu lieu hier après-midi à 18h ici même, et aussi à Cyril Luigi, on dit comme ça, Luigi. Oh là, ça va être trop difficile. Lovigi, alors d'accord, voilà. Qui est le parrain du petit baptisé et qui va chanter pour nous ce matin au moment du baptême du petit. Et donc nous sommes très très heureux que vous soyez avec nous et que vous fassiez cette offrande de chant dans ce temps de culte avec notre organiste Aurélien Péter à la tribune ce matin. Merci Aurélien d'être avec nous. Je vous invite à la prière et je laisse la parole à ma consœur Agnès Adeline Schaeffer.
Éternel, toi qui nous réunis ce matin, donne à ce culte la saveur de la foi. Cette foi qui nous met en route, celle de notre communauté, qu'elle devienne le corps de ton Fils Jésus-Christ, incarnation de ta grâce sur chacun et chacune. Amen. Nous nous réunissons par le chant, en prenant maintenant le premier chant du livret inséré au début du psautier. Il s'agit du psaume 8 et je vous invite à vous lever. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens pour nous ouvrir les cieux. Et dans ta lumière, tu nous fais une place pour accueillir ta nouveauté. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens ôter de nos cœurs le voile. Par ta vie donnée, tu chasses l'obscurité. Tu exerces nos regards à la foi. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens murmurer à nos oreilles une parole de commencement. Notre esprit tressaille à ta sagesse en faisant l'apprentissage de ton nom. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens féconder notre histoire en faisant corps avec nos fragilités. Ton amour s'élargit aux dimensions du monde. Il est temps de faire route vers toi. Amen. Et nous prendrons maintenant le chant du psaume 84 que vous trouverez dans le psautier français. Donc, chant du psaume 84. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Prenez place. Nous écoutons maintenant la volonté de Dieu telle qu'elle est écrite dans le livre du prophète Ésaïe. J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Préparons les chemins du Seigneur dans nos vies. Et nous reprenons les spontanés qui sont au début du psautier français. Nous chantons le psaume 72.
Nous présentons devant Dieu avec nos interrogations, avec nos difficultés parfois à croire en sa parole. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne connais pas vraiment moi-même qui je suis. Si je crois sincèrement suivre ta volonté, je ne le sais pas. Cela ne veut pas dire que je m'y conforme, en effet. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai nulle crainte, car tu es toujours avec moi, et jamais tu ne me laisseras seule dans le péril. Amen. Chers amis, levez-vous pour recevoir cette grâce renouvelée sur vos vies. Le Seigneur est toujours bon avec nous, sans cesse. Quel que soit ce que nous lui présentions, il est toujours là pour nous et il est toujours là dans la même bienveillance, dans la même compassion pour nous. Dès que Jésus remonta de l'eau du Jourdain, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux qui disait à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai mis ma joie. » Que cette joie soit en nous tous, donnée par Dieu. Nous chantons ensemble notre reconnaissance. Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant accueillir la famille du petit baptisé de ce matin. Chiara et Luca, vous pouvez me rejoindre avec les parrains et marraines du petit garçon qui est là et dont je tais pour l'instant le nom, puisque nous allons le dire tout à l'heure. Chiara et Luca, vous avez demandé que votre fils reçoive le baptême. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour cette fête particulière, pour lui et pour nous aussi. Je vous invite maintenant à dire la confession de foi que vous avez choisi de partager avec cette assemblée dans le cadre de ce sacrement qui va être donné. Luca, je vous laisse la parole.
Éternel, je crois que tu es le Dieu vivant, que tu es mon Dieu. Je crois que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Il est mon frère, mon ami, mon Seigneur. Je crois que ton Esprit nous fait vivre avec plus de foi, plus d'espérance et plus d'amour. Je crois que c'est ensemble que nous avançons vers toi et qu'ensemble nous ferons un monde plus juste. Mon Dieu, je crois qu'il n'y a en toi que du bien et que tu nous fais vivre éternellement.
Voici la volonté de Jésus pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chiara et Luca, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui et qu'il appelle à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fera naître en lui, et c'est notre souhait à tous, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, qui est de l'eau tout ordinaire, qui aurait pu servir à donner à boire à un enfant, à laver les mains d'un tout petit, à faire pousser une plante. Mais avec la parole de Dieu, cette eau-là devient eau du sacrement, eau d'une nouvelle alliance, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants même quand ils n'ont pas encore l'âge de s'en rendre compte. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Je vous invite à vous lever pour être témoin de ce baptême. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Luca et Chiara, quel prénom avez-vous choisi pour votre fils ?
Paul.
Paul, tu sais déjà que c'est un très grand personnage de la Bible, Paul. Oui. Ne t'inquiète pas, il ne faut pas que ça t'impressionne. Tu seras aussi un très grand personnage dans ton domaine. Alors, je vais vous inviter maintenant à présenter votre fils au baptême. Paul, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alors Paul, viens avec moi. Paul, regarde-moi. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Un jour, tu comprendras toutes ces paroles quand tu auras été à l'éducation biblique, quand tu auras partagé avec les amis ce qu'on peut dire de Dieu, et tu verras que tout deviendra limpide pour ta vie. Ça va aller. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Chiara qui voulait partager quelques mots au nom de son mari et elle. Et au nom des parrains et marraines.
Cher Paul, tu connais déjà l'amour de tes parents, grands-parents, oncles et tantes, cousines et copains. Nous sommes ici pour témoigner de l'amour de Dieu pour toi. Comme dans une famille dans laquelle l'amour des parents est inconditionnel, ainsi dans la vie chrétienne, on apprend à répondre à l'amour de Dieu et non pas à essayer de le gagner. Nous sommes ici pour te faire découvrir la promesse de fidélité de Dieu, pour te parler de l'Évangile qui rend libre, confiant et constructeur de justice. Nous nous engageons à te faire connaître l'Évangile à travers nos choix personnels et familiaux. Tu pourras ensuite, dans quelques années, décider librement si tu voudras répondre ou non à l'amour de Dieu, qui est et restera inconditionnel.
Merci beaucoup. Alors Paul, est-ce que tu es d'accord pour faire connaissance avec ta nouvelle communauté? Tu veux bien? Alors viens, on va aller te présenter à toutes ces personnes. Viens sans crainte, tu es ici chez toi. Il n'y a rien à craindre, regarde. Toutes ces personnes-là sont venues ce matin en sachant qu'ils allaient te trouver ici le jour de ton baptême. Frères et sœurs, voici Paul, votre petit frère dans la foi. Il est ici chez lui, vous êtes sa famille spirituelle. Si un jour il venait à se séparer de cette communauté, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Et ce sera ainsi pour lui le signe de cet amour inconditionnel que nous prêchons ici. Cet amour de Dieu qui ne l'abandonnera jamais et vous en serez les témoins pour lui. C'est ce que nous souhaitons dans ce moment où nous nous engageons tous pour lui. Voilà Paul. Paul Gualdi, voilà. Regardez, alors regarde Paul, tu vois là je vais faire des jaloux si je ne vais pas aussi te présenter de ce côté-là du temple. Voilà, voilà. Tu vois ça fait une grande famille déjà, hein. Ça élargit beaucoup le cercle. Hein. Ouais. Voilà, je vous remercie et je vous invite à vous asseoir parce que tout de suite nous allons avoir un merveilleux cadeau qui est fait par le parrain de Paul pour son baptême et qui est en tribune avec notre organiste Aurélien Péter. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. J'ai choisi ce matin de partager avec vous dans le livre des Actes. Au chapitre 2, les versets 37 à 47. Les auditeurs de Pierre furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit-Saint, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Il disait « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple. Ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe des personnes qu'ils amenaient au salut. Je vous invite à chanter le cantique 202, les strophes 1 et 2. Et les enfants pourront quitter, quitter le temple pour aller rejoindre Agnès pour le mini-culte à la maison presbytérale. Donc les enfants, je vous invite à prendre vos affaires et à aller suivre vos monitrices et Agnès qui vont vous proposer un culte rien que pour vous. Voilà, et les catéchumènes qui veulent rester ici peuvent le faire. Thank you.
Nous prions ensemble. Éternel, ouvre nos cœurs à ta parole. Nous qui sommes héritiers de ceux qui ont cru, en ayant connu Jésus, l'homme de Nazareth, qu'il était pour eux le Messie par son langage, par son enseignement, par sa vie. Éternel, bénis-nous et permets que nous puissions entendre et donner ta parole en restant fidèles. Nous venons de traverser les âges avec ce chant en vieux romain. Et nous avons traversé les âges avec ce texte du livre des Actes. Dans ce livre des Actes, on a l'impression de retrouver une sortie de culte dominical quand les personnes qui veulent se rapprocher d'une certaine façon de comprendre le salut de Dieu viennent demander « Et maintenant, que devons-nous faire ?» Sous-entendu, que devons-nous faire pour rejoindre la communauté? L'apôtre Pierre est très utilitariste dans sa réponse. C'est simple, il faut se faire baptiser. Les péchés sont alors pardonnés et on reçoit l'Esprit Saint. Le baptême est à la fois, dans ce cas, une sorte de porte d'entrée dans la communauté, un vecteur pour le salut de Dieu et un mandat pour ensuite servir sa parole selon un certain esprit. Tout le processus d'entrée dans l'Église primitive est ici indiqué. Ce jour-là, environ 3000 personnes ont reçu le baptême. Tu te rends compte, Paul ? 3000 personnes, tu imagines ça ? Si vous aviez été si nombreux ? Et leur vie devint alors communautaire. Il s'est passé un événement dans la vie de ces 3000 personnes et chacune d'entre elles recherche maintenant des jalons sur sa route pour donner forme dans la durée à cette découverte, à cette nouvelle vie, à cette conversion. L'événement pourrait rester à un point donné de leur vie sans aucune suite, en effet, s'ils ne décidaient pas d'instituer une nouvelle vie à partir de ce point inaugural. L'Église pourrait se définir comme la mise en commun de tous ces événements individuels vécus dans la foi. Mais comment passer de l'événement de la foi, de la rencontre individuelle, au moment de l'institution de l'Église? Comment passer du sentiment d'adéquation entre soi et un discours religieux à l'intégration dans la communauté d'une religion déjà instituée? Ne risque-t-on pas de perdre la fraîcheur de l'événement en instituant quelques règles que ce soit par-dessus ces événements de foi? La communauté fait parfois peur. Pour l'homme moderne, l'institution sent souvent la tradition comme une vieille garde-robe qui sentirait la naphtaline. Notre société privilégie l'événement, la nouveauté, jusqu'à l'institutionnaliser. Il n'y a plus que des événements. On refuse toute tradition, non pour des raisons de cohérence avec sa foi, mais pour ne surtout pas dépendre de prédécesseurs, d'ancêtres, de récits ou d'enseignements instituants. Il faut paraître nouveau. La défiance à l'encontre des institutions est telle que dans notre société, on a trouvé difficile de garder même le terme d'instituteur pour la fonction hautement communautaire, voire civique, de professeur des écoles. Dans notre imaginaire, la communauté instituée rime souvent avec un manque de liberté. Et le succès des communautés virtuelles dans lesquelles on reste un temps s'explique sans doute par le fait que l'on peut les quitter à tout moment sans autre explication qu'une déconnexion. Il n'y a pas vraiment d'attachement. Il faut dire que trouver la bonne mesure en matière de liens communautaires n'est pas toujours évident. Regardons les apôtres et ces 3000 convertis. Leur communauté est vécue chaque jour, à chaque heure. Ils se réunissent dans le temple tous les jours. Ils partagent leurs biens, ils se retrouvent dans les maisons pour partager le pain. Et chaque jour, de nouveaux arrivants s'ajoutent à cette communauté, estimée de tous, certes, mais qui a tendance à vivre beaucoup ensemble. C'est une communauté dont les membres semblent pouvoir disposer de leur temps comme ils l'entendent. C'est assez étrange d'ailleurs. Pourtant, toutes ces personnes devaient bien avoir un emploi, un commerce, des champs, où elles allaient travailler pour continuer à vivre et à partager leurs biens. On apprend aussi qu'il y a dans ces communautés des enfants, puisque Pierre parle d'un salut promis à toute la famille de génération en génération. Comment chacun consacrait-il son temps aux relations communautaires? Quelle part chacun était-il prêt à consacrer au collectif dans cette expérience? Et comment acceptait-il les règles d'une communauté instituée? Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est le vent formidable d'amitié, de fraternité et de liberté qui y souffle, malgré toutes ces contraintes que je viens d'énumérer. On est loin de l'affirmation « l'enfer, c'est les autres ». Ici, chacun semble trouver sa place et personne ne semble compliquer les choses pour des enjeux de pouvoir ou des intérêts personnels. Il faut dire que tous reconnaissent l'autorité de Dieu, ce qui les met, de fait, sur un pied d'égalité, les uns avec les autres. Et puis ils sont en recherche et continuent d'apprendre en étant fidèles à l'enseignement des apôtres. Les apôtres deviennent alors des instituteurs de la nouvelle Église. Ils enseignent les dogmes à retenir, comme par exemple Jésus est mort et ressuscité, il est le Messie. Par son baptême, chacun acquiert le salut de Dieu. En lui, chacun a la vie éternelle. Toutes ces affirmations, ces contenus de la foi sont expliqués, sans doute discutés, en tout cas répétés. Cette façon de vivre la communauté dans des liens très étroits et quotidiens peut se rencontrer dans notre monde contemporain, notamment dans le monde religieux, mais sans doute pour des périodes limitées. Car si l'être humain est un animal social, il a pourtant besoin d'une certaine solitude et de vivre au moins en partie de façon autonome, sans dépendre complètement d'une communauté. Alors d'où vient l'impression de vie idéale qui se dégage du témoignage des Actes des apôtres? D'où vient que les forces soient si bien équilibrées entre ceux qui viennent demander le salut et ceux qui les accueillent et les baptisent, étant persuadés de l'avoir déjà reçu? D'où vient que chacun semble pouvoir être libre dans cette institution même? Peut-être justement parce que c'est un baptême qui marque leur entrée dans cette communauté. Un baptême que les apôtres eux-mêmes ont sans doute reçu et que leur maître nommé Jésus avait lui-même reçu. Jésus lui-même ne se passe pas de ce signe visible de la grâce invisible de Dieu. Pourtant, Jean le Baptiste lui propose de ne pas passer par cette étape. Mais Jésus se sait pécheur, comme tous les autres êtres humains. Il n'est pas Dieu. Et c'est d'ailleurs le sujet du récit de la tentation au désert qui va suivre, après le baptême. Et c'est pour cette raison qu'il peut instituer une communauté d'apôtres qui le respectent et le suivent librement. Il a autorité sur eux par son exemplarité et la communion que représente le fait d'avoir reçu le même baptême et de pouvoir tous se considérer pécheurs, mais pardonnés. Dans le protestantisme libéral, la notion de dogme et celle d'institution font un peu frémir. Cela fait frémir surtout le fidèle épris de liberté. Va-t-on dicter aux croyants ce qu'il doit croire ? Avons-nous des dogmes qu'il faudrait accepter pour pouvoir être chrétien ? L'appellation chrétien n'est-elle pas restrictive pour rendre compte de l'événement de la foi ? Et ne doit-on pas décider d'être croyant en refusant toutes les étiquettes et parmi elles celle de baptiser ? Après tout, nous avons baptisé ce matin, mais pourquoi ne pas se passer de ce signe et décréter que dans l'amour de Dieu, nous sommes tous dans l'Église ? C'est aussi une lecture possible. Entre spiritualité et institution, les confessions chrétiennes et protestantes qui se réclament de l'effusion du Saint-Esprit ou de la conscience individuelle peinent à trouver leur chemin pour ne pas tomber dans une nouvelle orthodoxie. L'orthodoxie étant comprise comme une sorte de sclérose de l'événement Christ dans l'institution de l'Église. C'est ainsi que se dessine le paysage protestant actuel, avec au milieu de la balance un protestantisme avec des dogmes qui lui permettent de ne pas entrer en conflit avec les autres confessions chrétiennes et que l'on pourrait qualifier d'un protestantisme orthodoxe, qui sous-tend qu'il y a un ensemble de dogmes à respecter qui lui préexistent, tout en s'autorisant de les réinterpréter. Pourtant, il ne s'agit pas du tout d'un littéralisme, mais d'une reconnaissance de certaines affirmations. Et de part et d'autre de cette orthodoxie, nous trouvons d'un côté des communautés qui privilégient l'inspiration d'une vérité révélée et qui s'interdisent de la critiquer parce qu'elle est la vérité. C'est ce qu'on appellerait très rapidement, dans notre langage protestant, des évangéliques. Et d'un autre côté, de l'autre côté, il y a des communautés qui reconnaissent la multiplicité des expériences de foi et qui critiquent méthodiquement le langage qui les exprime. C'est ce qu'on appellerait tout aussi rapidement le libéralisme. Alors évidemment, au milieu de toutes ces étiquettes, vous avez toutes les nuances possibles. Il arrive qu'en tant que libéraux, nous affirmions que nous n'avons pas de dogme. Mais l'institution d'une communauté peut-elle se faire sans une dimension dogmatique du langage ? Est-ce qu'il est possible de faire communauté sans avoir un langage commun ? Est-ce qu'on peut faire église ensemble sans reconnaître quelques points qui soient des vérités pour que l'on reconnaisse comme telles, même si l'on peut les discuter autant qu'on veut ? Le théologien Guyenne Antier pose le problème dans son recueil d'articles « Les protestants ont-ils le sens de l'Église ?» Et il demande « Qu'est-ce qu'un dogme ? Est-ce un énoncé dogmatique particulier qui prétendrait énoncer une vérité intemporelle, au contenu immuable, avec de surcroît une prétention à forcer les consciences ?» Cette vision simpliste et autoritariste du dogme passe complètement à côté du fait que le dogme, au sens le plus noble et le plus essentiel, représente l'impossibilité pour l'humain de s'auto-fonder, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas soi-même, et qu'il y a toujours besoin de langage autour de nous, et que nous naissons dans une culture particulière, dans un langage particulier, qui nous constitue. Là réside paradoxalement, dit-il, la source de sa liberté. Car si tout humain hérite en naissant d'un arsenal symbolique, que certes il ne choisit pas et qui détermine largement son identité, sa vision du monde, sa conduite, il lui revient ensuite, en existant, de faire jouer celui-ci de façon imaginative et singulière, dans un processus permanent de dialogue et d'interprétation. Le théologien critique ici une certaine théologie libérale qui refuse les énoncés théologiques constitutifs de la tradition chrétienne. Non pas pour vraiment leur contenu, mais simplement parce qu'il ne faut rien dire de précis sur le christianisme. Comme si le fait que ces points particuliers qui constituent le christianisme, le fait même qu'ils existent, devaient empêcher, de fait, de les critiquer ou de les réinterpréter. Mais contrairement à ce que l'on croit trop souvent, les dogmes se discutent. Et c'est dans cette discussion, cette réinterprétation constante, que se joue véritablement la liberté du chrétien. Et le théologien ajoute, il y a une plasticité du dogme qui donne lieu à un travail incessant de transmission, traduction, trahison, déconstruction, recréation, et qui est la marque même de la vie culturelle. Dans toutes les disciplines où l'on cherche, on hérite de mots, d'énoncés, de formules qui nous ont précédés et qui font toute une culture et qui permettent ensuite de pouvoir retravailler ce trésor commun afin d'inventer autre chose, afin de moderniser les choses, afin de rendre les choses plus présentes, plus actuelles, plus contemporaines et plus vivables. En d'autres termes, si l'Église s'institue par des mots transmis, des textes et des témoignages reçus, elle n'en demeure pas moins le lieu de la liberté de conscience de ceux qui travaillent à l'interprétation de ces héritages. La communauté que nous décrivent les Actes des apôtres n'est pas autoritaire, mais l'autorité qui la fonde est précisément celle d'un Dieu qui libère et qui permet de faire vivre et élaborer une culture de la liberté individuelle, grâce au collectif. Dans ce sens, l'Église est un tissu de relations et les dogmes en sont les vecteurs. Non pas pour scléroser la pensée ou pour obliger qui que ce soit à croire d'une certaine façon, mais pour avoir un langage commun, pour pouvoir le partager, pour pouvoir discuter ensemble. À condition, bien sûr, de travailler à ce dialogue. Et c'est peut-être ce qui manque à nos églises actuellement, de pouvoir davantage travailler ensemble à ce dialogue entre les idées différentes, à cette critique, à cette création constante d'idées, de symboles, et de signes. C'est un effort constant de devoir se repenser sans cesse, de devoir se réformer. Aujourd'hui, les enfants de notre communauté réfléchissent sur la fonction de Messie attribuée à Jésus dans les Écritures. Ce n'est pas seulement pour savoir la définition du mot Messie qu'ils sont là ce matin. Ce travail va les amener à dialoguer avec des textes, avec des adultes, avec d'autres enfants et avec eux-mêmes et ce qu'ils pensent de tout cela. Ils vont apprendre de l'histoire, ils vont apprendre de la théologie, ils vont faire peut-être un peu de grec, pourquoi pas un peu d'hébreu, pour aller regarder ce qui se passe dans ce mot et comment il a traversé les âges jusqu'à nous. Et comment il est porteur de toute une culture du salut. S'ils ne comprennent pas cela, quels chrétiens seront-ils? Qu'est-ce qu'ils pourront partager avec les autres? Qu'est-ce qu'ils pourront annoncer dans ce monde de l'ordre du salut? Ils apprendront cette gymnastique mentale qui consiste à critiquer un terme hérité pour le faire sien, dans une culture propre. Sans doute, à la sortie de leur séance, tous auront retenu une histoire de ce mot, mais chacun lui aura donné un sens particulier dans sa foi ou dans sa non-foi, car ce n'est pas nous qui donnons la foi aux enfants. C'est là que se construit la liberté, la véritable liberté, celle qui est éclairée. Il en va de même de toutes les activités que nous proposons dans notre Église, des concerts spirituels qui nous font méditer en musique, des dimensions de notre foi, au partage biblique, en passant bien sûr par les cultes avec les prédications. À chaque fois, nous remettons les mots hérités du passé sur le métier pour les réinterpréter dans notre présent. Aujourd'hui, nous avons baptisé Paul dans cette église. Il a reçu un signe qui vient de très loin et qui pourrait être compris comme une contrainte identitaire si l'on ne savait pas le sens qu'il a. Mais faut-il jeter le signe avec l'eau du baptême ? Ou accepter de l'instituer comme un récit inaugural de la liberté de ce petit Paul. Paul est entré aujourd'hui dans le langage de la foi avec nous. Son travail d'interprète commence. Il est ici avec nous tous pour dialoguer sur cet héritage, pour construire de nouveaux signes, pour comprendre de nouvelles significations. Il est ici entre héritage et création. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4, dans les psautiers. Voilà, nous allons partager maintenant quelques annonces. Et c'est Aurore, la présidente de notre conseil presbytéral, qui va partager ces annonces avec nous.
Bonjour à tous, y compris à l'Italie, si j'ai bien suivi, ça rime. Merci d'être venus si nombreux, franchement, les enfants également, parce que c'est un long week-end de 3 jours, donc les catéchumènes qui restent avec nous et qui ne sont pas partis à la campagne pour venir à l'éducation biblique, c'est vraiment très, très appréciable. Et c'est un long week-end du 11 novembre, nous n'en avons pas parlé dans la newsletter, mais pour mémoire, nous avons 142 noms que vous trouverez à l'entrée, « Mort pour la France ». Pendant la guerre de 14-18, qui étaient des paroissiens. 142 sont morts pendant cette Première Guerre mondiale, qui était une véritable boucherie. Et mes enfants m'ont appris, je n'ai pas vérifié l'information, mais ils sont fiables en général, c'est que le 1er novembre est devenu, en France, pas simplement le 11 novembre, une commémoration, enfin le 1er novembre, justement tu me fais le lien, une commémoration de la Première Guerre mondiale, mais une commémoration de tous les Français, de tous les morts pour la France. Voilà. Donc vous avez 142 noms. Alors, tu disais qu'on n'est pas une communauté, on n'est pas un club. Donc si vous n'avez pas votre nom, contrairement à certains d'entre nous, sur cette plaque, sentez-vous vraiment bienvenue également, parce que de toute façon, beaucoup de ces familles, malheureusement, sont vraiment éteintes. Et en tout cas, certains noms sont éteints, et je suis bien placée pour le savoir. Donc vraiment, merci d'être venus aussi nombreux. Cette semaine, vous avez la newsletter et la lettre hebdomadaire qui vous explique tout. Vous avez des artistes lundi, le groupe protestant des artistes. Vous avez beaucoup de grecs également bibliques cette semaine. Le groupe biblique œcuménique avec Agnès, Adeline Schaeffer, qui se passera pas à l'oratoire, mais à Saint-Eustache. Et vous rentrez par l'impasse Saint-Eustache. Donc c'est derrière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mercredi soir. Également le week-end dernier, week-end prochain, on a un peu de mal parce que ça va être un week-end un peu compliqué le week-end prochain, puisque nous allons essayer de dialoguer avec des courants par moments très différents, puisque nous avons le synode régional le week-end prochain, samedi et dimanche. Donc vous savez que nous fonctionnons en système synodal, donc vous aurez vos deux pasteurs, votre trésorier et moi-même représentant l'oratoire du Louvre samedi et dimanche lors de notre synode régional. Le week-end prochain, donc, nous laissons les clés au pasteur Vincent Hubach, ici dans la salle, pour assurer le culte, qui sera un peu la continuité de ce que tu viens de dire, puisque le remords, c'est l'enfer, le salut, c'est la grâce, tel est le titre de la prédication de dimanche prochain. Et il venait vraiment nombreux l'écouter. Également, trois dates à retenir au mois de décembre. Je vais pas les mettre dans l'ordre. Le 2 et 3 décembre, la vente de l'oratoire du Louvre, moment de convivialité et de communauté ici. Donc vendredi 2, samedi 3 décembre. Le 15 décembre, le concert du chœur. Et puisque nous faisons communauté, l'entraide va participer et soutient le concert du chœur pour permettre à des personnes défavorisées de pouvoir y assister, puisque le concert du chœur va être extrêmement professionnel cette année, puisque le chœur a décidé de prendre un soutien de plusieurs musiciens pour vous offrir c'est le Requiem? Non, c'est pas le Requiem, je ne sais pas, je n'ai pas le programme, pardonnez-moi. Conte musical de Noël. Troisième annonce, le 13 décembre, vous aurez le dernier Théophile de l'année sur l'argent. Vous allez commencer à comprendre pourquoi j'arrive sur l'argent. Tout se paye-t-il? Donc, la grâce est gratuite, nous vous le rappelons. Vincent Hubach vous le rappellera aussi dimanche prochain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez tous recevoir, ceux qui sont dans nos fichiers, notre traditionnelle lettre du mois de novembre appelant aux dons de fin d'année. Parce que nous avons une particularité, nous ne sommes pas dans l'industrie du jouet, mais les deux derniers mois de l'année, nous réalisons 50% de nos dons. Donc, en deux mots, nous avons besoin de 1 046 € par jour, mais nous n'en recevons que la moitié en novembre et décembre. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous aider. Nous avons aussi une grosse particularité à l'oratoire que nous ne nous expliquons pas. Nous avons besoin de 1 046 €, c'est à peu près par jour le don moyen de toutes les paroisses parisiennes. Donc, on se dit, non, mais la population, les oratoriens, nous avons une sociologie différente, et donc ça explique que notre don moyen est trois fois plus faible que les paroisses parisiennes. La région, qui est quand même 68 paroisses, et la région va très loin, jusqu'en Champagne, alors j'ai pas pris un bon exemple, c'est la Champagne, mais beaucoup plus au sud aussi, le don moyen dans la région est de 809 €, c'est-à-dire quand même deux fois plus élevé que le don moyen à l'oratoire. Donc, vous verrez tout ça dans la lettre financière qui vous attend à la sortie du temple, ou que vous recevrez si vous êtes déjà dans nos fichiers. Mais je vous en prie, souvenez-vous d'un chiffre, 1 046 € par jour, pour couvrir un tiers de rémunération, pas que les pasteurs, me dit les pasteurs, rémunération de pasteurs, deux employés à plein temps, et nos organistes, un tiers de frais généraux. Alors, les frais généraux, c'est la lumière, le chauffage, tout ce qui coûte, le papier, etc. Et un tiers de solidarité avec la région. D'autres églises de la région qui n'ont pas la chance d'avoir de pasteur ou qui n'ont pas la chance d'avoir même un pasteur. Donc nous reversons un tiers de nos dons à la région. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Petite chose, puisque je parlais de Théophile, aujourd'hui c'est l'anniversaire de quelqu'un qui nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, qui se trouve être le mari de ma voisine, qui est monsieur Jean-Pierre Clairaut, qui vraiment nous éclaire dans toutes ses séances théophiles tout au long de l'année, Et alors, je suis passée à la librairie qui est ouverte ici, puisque tout est fermé dans le quartier, parce que tous les commerçants du quartier ont bien deviné que vous seriez tous à l'oratoire et pas en train de faire des courses. Donc, au stand de la librairie, j'ai trouvé un livre pour toi. Comme tu as déjà lu Ricoeur, Beauvoir, Camus, L'homme révolté, je t'ai trouvé le pasteur Jean Dumas, athée et croyant, quand l'athéisme vient en aide à la foi. Et si j'en crois le quatrième de couverture, et c'est pour ça que nous te remercions très fort, au nom du conseil presbytéral, le croyant se doit de remercier l'athée pour l'avoir aidé à se défaire d'une fausse image de Dieu. Et je crois que c'est ce que tu fais toute la journée, donc bon anniversaire à toi, Jean-Pierre. Merci à tous, désolée d'avoir été un peu longue, et bon dimanche à tous.
Et c'est maintenant, vous vous en doutez, le moment de l'offrande. Donnez le cœur joyeux, puisque cette Église continue à annoncer l'Évangile. Vous participez à cette annonce. Merci.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour Paul, que ce baptême lui donne l'assurance de ton amour indéfectible pour lui. Nous te prions pour sa famille, que ce baptême, comme une fête au milieu du quotidien, illumine leur vie. Éternel, permet que nous ne soyons pas tentés par la paresse théologique qui nous ferait dire des choses sans jamais les réfléchir, les critiquer, les penser. Aide-nous à être toujours artisans de cette langue qui dit ton salut pour le monde. Aide-nous à être porteurs de ce langage pour qu'il s'incarne sans cesse dans tous ceux qui portent ta parole, et que cette fidélité puisse être vécue par un grand nombre, non pour appartenir et avoir une étiquette identitaire, mais pour que ce monde soit meilleur et pour que nous puissions vivre ensemble dans cet amour du prochain que tu nous commandes. Éternel, aide-nous quand nous ne savons plus dialoguer. Donne à ce monde des liens, des relations, un tissu sans cesse qui se compose de tout ce que chacun veut faire avec sa bonne volonté pour parler à l'autre et l'écouter. Rappelle-nous que c'est de la paix dont il s'agit. Rappelle-nous que c'est de ta paix qu'il s'agit. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez annoncer l'Évangile à ce monde. Il en a tellement besoin. Allez annoncer à ce monde la bonté de Dieu pour chacun, quelle que soit son existence. Allez annoncer que Dieu n'oublie personne et que le Dieu auquel vous croyez n'est pas un Dieu de jugement et de sanction, mais un Dieu d'amour et d'accueil. Vous serez ainsi porteur de la paix de Dieu dans ce monde et bâtisseur de son royaume. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Amen.